Et ce matin, dans le 8h30, une émission un peu spéciale, nous allons parler de lutte contre le harcèlement scolaire avec Aymeric Metz, bonjour.
Bonjour.
Dazen 05, un directeur académique des services de l'éducation nationale dans les Hautes-Alpes. Et Gwenaëlle Tarantola, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable départemental non au harcèlement. Quand on parle de harcèlement scolaire, on a toujours un petit peu de mal à poser une définition dessus. Harcèlement, on a l'impression que c'est un événement qui est répétitif, qui s'inscrit dans la durée. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est un phénomène qui peut être isolé?
Vous l'avez dit, effectivement, quand on parle de harcèlement, on parle d'une répétition, d'une violence qui peut être verbale, qui peut être accompagnée de violences physiques également, d'un groupe d'élèves ou même d'un individu seul, envers, là aussi, un autre élève ou un autre groupe de jeunes. Et donc, c'est la répétition qui nous conduit notamment à qualifier les faits de harcèlement.
Harcèlement scolaire, ça se passe dans l'environnement scolaire, ça peut se passer entre élèves. Comment on arrive à définir aussi, ce sont des personnes qui sont dans le même établissement scolaire qui peuvent aussi être harcelées, harceleurs en dehors des établissements scolaires?
Alors on parle beaucoup maintenant de harcèlement au milieu scolaire pour expliquer qu'effectivement une partie de ce phénomène se déroule dans un établissement scolaire, mais il peut se dérouler tout à fait en dehors, par exemple lors de ce qu'on appelle du cyberharcèlement, c'est-à-dire l'utilisation de réseaux sociaux pour avoir des comportements qui sont identiques à ce qui pourrait se passer dans un milieu scolaire ou dans un club sportif ou dans tout autre lieu de sociabilisation, mais qui peuvent se passer donc en ligne. Donc nous traitons bien sûr le harcèlement en milieu scolaire, mais il a souvent des implications et des ramifications en dehors de nos établissements.
Quand vous dites vous traitez, c'est-à-dire comment on vous saisit, vous, direction, l'inspection académique, on saisit le proviseur, il y a un signalement qui est fait de la part peut-être des professeurs, du personnel, même des élèves peut-être, Gwenaëlle Tarantola?
Oui, alors pour toute situation de harcèlement, la première des choses, c'est de se rapprocher des personnels de son établissement. Donc on a des personnes ressources dans chaque établissement. On a des équipes ressources qu'on appelle phares, qui sont à même d'intervenir, de recevoir la personne qui est cible d'intimidation, de violence ou de harcèlement, qui va déjà dans un premier temps prendre en charge la personne cible. Et échanger aussi avec la famille et puis pouvoir essayer de mettre en place une stratégie sur place pour arrêter la situation de harcèlement. Ensuite, les personnes qui sont ciblées auteurs, parfois témoins, peuvent être amenées à être vues en fonction des situations. Et on a deux possibilités. Soit on est sur un protocole déjà à l'intérieur de l'établissement qui va passer par ce qu'on appelle la méthode de préoccupation partagée, qui est une méthode, dans un premier temps, non blâmante pour des situations d'intimidation, mais pas encore qualifiées de harcèlement. Et puis après, sinon, on a aussi le protocole national qui, là, on est sur une procédure plus disciplinaire où on qualifie effectivement la notion de harcèlement et il peut y avoir des sanctions disciplinaires qui peuvent être prises. Ça, c'est à l'intérieur de l'établissement.
Ouais. C'est-à-dire, sanctions disciplinaires, ça peut être envoyé de son établissement le temps de quelques jours ou autre?
Ça peut être. Il y a une échelle de sanctions disciplinaires qui existe. Ça peut aller de l'avertissement jusqu'à la convocation du conseil de discipline. Mais voilà, selon la situation, les personnes sur place, c'est le chef d'établissement qui va bien sûr statuer sur la sanction. Mais les personnes sur place vont évaluer la situation et la gravité des faits.
Quand vous parlez de préoccupation, alors on a bien compris ce protocole disciplinaire, mais la préoccupation partagée, vous disiez, c'est non blâmant. C'est intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a les victimes d'un côté, il y a des auteurs qui sont jeunes aussi. Quel est l'intérêt d'avoir un protocole qui soit aussi non blâmant? C'est quoi? C'est de la pédagogie? Vous expliquez à ces jeunes qu'est-ce que c'est que le harcèlement scolaire, pourquoi ils ont été harceleurs?
Alors, tout d'abord, il y a des sensibilisations qui sont faites régulièrement dans les classes auprès des élèves sur ce que c'est que le harcèlement, sur ce que c'est que la violence, sur voilà, les différentes interactions, ce qu'on peut faire, ne pas faire. En ce qui concerne la méthode de préoccupation partagée, c'est vraiment un moment donné où on va se préoccuper tous ensemble pour la cible et on peut voir des auteurs, on peut voir des témoins, puisque les témoins, ils ont un rôle important à jouer dans des situations de harcèlement. Et on peut leur demander, eux, de se mobiliser pour essayer d'apaiser cette situation, de comprendre ce qui se passe pour l'autre élève. Et donc, on fait appel à l'empathie des élèves. Et on est dans un travail éducatif fort. C'est-à-dire qu'on a besoin que à la fois ils prennent conscience qu'ils sont dans un collectif et qu'on doit se préoccuper des autres, et à la fois de la limite des actions qu'on peut avoir vis-à-vis des autres.
C'est un public qui est jeune, je l'ai dit, forcément qui est en apprentissage et aussi de la vie. Est-ce que c'est un public aussi qui... Vous parliez de limites. Est-ce que c'est un public aussi qui a conscience, parfois, du mal qui peut être engendré ?
Non. Une personne qui peut être dans une dynamique d'intimidation ou de harcèlement n'a pas forcément conscience qu'elle est en train d'harceler. Elle a conscience de la violence dont elle peut faire preuve, parfois, mais encore, des fois, ça va même pas jusque-là, c'est-à-dire que c'est compliqué pour eux de comprendre qu'ils sont déjà dans une violence. Et donc, le fait de poser les mots et de poser ce cadre-là et de se préoccuper comme ça avec eux, ça leur permet de poser une limite. Mmh. Et on a des publics, en fait, comme vous l'avez dit, qui sont jeunes, qui sont en vulnérabilité, quels qu'ils soient, hein, qu'ils soient cibles ou même qu'ils soient auteurs ou témoins. Et il faut qu'on soit sur un travail éducatif avec eux pour les amener vers autre chose.
Aymeric Meix, vous souhaitez ajouter peut-être quelque chose ?
Simplement dire qu'effectivement, ces situations sont toujours complexes. Elles sont prises avec beaucoup d'attention et elles sont regardées avec la perspective d'une amélioration qui doit être durable. Or, si l'on veut que l'on fonctionne sur des améliorations durables, il faut que ce soit la communauté scolaire qui s'empare de la réponse et pas simplement essayer de trouver un auteur d'une infraction, voilà, que l'on punit et pour lequel ensuite on a tout résolu. Malheureusement, si c'était comme ça, ce serait certainement plus simple, mais ça ne marche pas comme ça. En tout cas, très rarement. Et c'est bien que disait Madame Tarantola, lorsqu'il y a une prise de conscience collective et une responsabilisation, notamment des témoins et de toutes celles et ceux autour qui sont sur une zone grise où on n'est pas forcément harceleur, mais on n'est pas forcément complètement innocent non plus, c'est lorsqu'il y a une mobilisation de tous ces jeunes pour arrêter le processus que la victime, la cible, va pouvoir se retrouver libérée de ce harcèlement.
Je suis maman, j'ai un enfant, mon enfant est harcelé. Alors on m'explique en effet qu'il y a une méthode non blâmante pour l'auteur. Je vais parfois peut-être avoir du mal à le comprendre parce que mon enfant est victime. C'est difficile aussi de poser des mots auprès des parents.
Et c'est pour ça que la première chose qui est faite lorsque l'on rencontre la famille, c'est bien d'échanger avec eux sur ce que vit leur enfant. Avec un objectif commun, c'est celui qu'il aille mieux, qu'il arrive à dépasser ce cap-là. Et c'est si l'on arrive à franchir cette étape, et c'est parfois difficile, effectivement, d'arriver à sortir de ce statut de cible et de profiter pleinement de sa scolarité, effectivement, là, la demande de sanction, qui est une demande, finalement, un petit peu naturelle, humaine, que l'on peut comprendre, mais la vraie attente de la famille, c'est que son enfant aille bien. Et si on arrive, ensemble, à faire que son enfant aille mieux, en général, la demande s'apaise, et parfois, effectivement, ça passe quand même par une sanction si, comme disait Madame Tarantola, si la réponse en première étape n'a pas suffi, il faut parfois une sanction. On a même la possibilité maintenant, dans le premier degré, c'est-à-dire dans les écoles, d'aller jusqu'à déplacer un auteur de faits de harcèlement.
Dans les écoles ?
Y compris dans les écoles.
Donc, oui, donc en fait, cette procédure phare dont vous parliez, elle se met en place, parce qu'on pense très souvent au collège ou au lycée, bien sûr, mais elle se met déjà en place aussi dans les écoles.
Tout à fait. Alors, effectivement, plutôt pour les plus grands de nos écoliers, bien sûr, mais elle se met en place dans l'ensemble des écoles du département, comme partout en France.
Vous parliez, Gwenaëlle Tarantola, de personnel phare, hein, P-H-A-R-E, si je ne me trompe pas. Hein. Mais en tout cas, ce sont des personnels qui sont formés pour lutter contre le harcèlement scolaire. Mais est-ce que tous les personnels aujourd'hui sont quand même dans une espèce de formation pour dire, bien noter ce qu'est le harcèlement scolaire et comment réagir.
Oui, tout à fait. Alors les personnels qui sont personnes ressources, elles sont formées pendant 2 années minimum pour bien avoir toutes les notions et le savoir un peu faire et être pour gérer des situations de harcèlement. Il y a toute une organisation qui est mise en place hein, avec des rencontres régulières. Et ce n'est pas que le traitement des situations. Hein, les équipes ressources, elles mettent en place beaucoup d'autres choses. Elles mettent en place des temps forts dans l'année, la prévention contre les situations de harcèlement pour le vivre ensemble. Et elles mettent en place aussi ce qu'on appelle les ambassadeurs lycéens ou collégiens qui sont des élèves engagés aussi sur ces questions-là. Donc il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, des informations, voire des ateliers auprès des familles pour pouvoir en échanger. Et puis, pour tous les personnels qui ne sont pas dans le cadre des personnes ressources phares, une formation est proposée également. Alors, plus depuis cette année, on a 3 heures de formation en distanciel et 3 heures de formation en présentiel où on reprend un petit peu toutes les notions qui ont un lien avec de près ou de loin le harcèlement, c'est-à-dire de près ou de loin, le harcèlement c'est souvent un terreau fertile pour des mises en situation d'intimidation. Comment on peut réfléchir aux signaux, repérer facilement du harcèlement, être attentif à certains types de signaux, aborder un élève qui est en fragilité, qu'on peut repérer comme étant en fragilité, être dans le non-jugement, dans notre manière de prendre cette parole-là, savoir vers qui se retourner pour accompagner cet élève. Toutes ces choses-là sont abordées dans cette formation. Ça a déjà commencé, hein, on a fait quelques formations déjà, premier et second degré, et les personnels ont reçu ça de manière très positive parce que ça leur a donné des clés pour avancer aussi dans leur gestion et parfois même dans leur manière de poser les mots. C'est plus facile pour eux après la formation puisqu'ils ont des clés qu'ils n'avaient pas forcément au départ.
Oui, parce que c'est extrêmement complexe. Hein. Vous en parliez au tout début du cyberharcèlement. C'est vrai que maintenant, le harcèlement prend un peu toutes les formes de la société. Le cyberharcèlement, c'est un peu plus complexe quand même de mettre le doigt dessus, justement, sur ce phénomène-là.
Oui, mais nous avons des jeunes qui sont effectivement, pour beaucoup, en relation sur les réseaux sociaux et cela se propage et se prolonge. Dans les cours d'école, de collège ou de lycée. Donc, nous sommes amenés à les identifier, les repérer, les échanges avec les personnels éducatifs, avec les enseignants au quotidien dans les établissements scolaires. C'est aussi l'occasion parfois de parler d'un mal-être, quelque chose qui vous est arrivé sur votre téléphone portable hier soir avant de vous coucher. Et c'est parfois les parents à l'entrée, mais pas parfois, effectivement, ça peut être l'école. C'est pour ça qu'on intègre dans cette question du harcèlement en milieu scolaire, la question du cyberharcèlement, avec, pour la formation, les équipes phares qui sont expertes, et 100%, c'est l'objectif, d'ici, on va dire, 2 ans à peu près, 100% des personnels qui soient formés, au moins sur le premier niveau, c'est-à-dire repérer et savoir diriger l'enfant vers la réponse adaptée.
Mais c'est vrai que cette lutte contre le harcèlement scolaire interroge deux liens. J'allais dire, le premier, c'est le lien entre l'enfant et l'adulte, que ce soit en effet l'enfant victime ou auteur, et puis l'adulte, ça peut être le corps de l'éducation nationale, voire même aussi ses parents. Et puis le lien entre école et famille aussi, comment ça se fait dans la continuité, cette lutte?
Bien sûr, c'est indispensable d'associer la famille, comme à chaque fois, lorsqu'une situation particulière survient dans l'école. Nous ne sommes pas une bulle isolée du reste du monde, et l'enfant ou le jeune ne va pas s'arrêter de penser à son problème en venant ou en sortant de l'école. Donc on associe les familles dans cette réflexion. C'est une situation individuelle, c'est la famille de l'enfant concerné, mais ça peut aussi être sur toutes les actions de prévention, sur toutes les actions qui sont à vocation de dissémination de la bonne, peut-être pas de la bonne méthode, mais en tout cas de la bonne attitude à avoir. Tout ceci peut être conçu de manière plus collective avec les représentants des parents dans les écoles, dans les collèges, qui peuvent être associés lors des conseils d'administration, aux travaux qui sont faits en ce sens dans chaque établissement.
Je ne vous demanderai pas les chiffres du harcèlement scolaire parce que vous ne pouvez pas les communiquer pour le département. Cependant, je vous poserai juste cette question. Est-ce que le département de Hautes-Alpes est un département qui peut être considéré comme, comme le reste des autres départements? On peut en effet avoir des attitudes de harcèlement scolaire comme partout ailleurs et de partout sur le territoire.
Oui, nous gardons toujours une vigilance sur ce sujet. Nous avons, comme partout ailleurs, quelques situations qu'il nous faut traiter. Pas de surreprésentation dans les Hautes-Alpes, c'est heureux, mais néanmoins, chaque situation est importante et chaque situation doit être traitée extrêmement sérieusement, et c'est ce qui est fait, d'où la présence de 2 responsables départementaux de lutte contre le harcèlement, plutôt collège et lycée pour Mme Tarantola. Nous avons une directrice d'école, Mme Jean, qui, elle, et plus sur les situations du premier degré. Et j'ai aussi une conseillère technique de service social qui est en relais des établissements, à chaque fois pour appuyer les équipes. Comme on vous l'a dit, nous avons des équipes localement parce que les problèmes se résolvent localement, mais il faut aussi des appuis, une équipe solide au niveau départemental pour accompagner chacun sur le territoire.
Gwenaëlle Tarantola, dernière question. Forcément, vous intervenez dans les établissements, vous intervenez aussi auprès des familles. Quels sont les premiers mots que vous posez quand il y a un cas d'harcèlement scolaire? Est-ce que ce sont toujours les mêmes mots d'ailleurs, ou pas du tout, ou peut-être une attitude un peu particulière?
Chaque situation est prise individuellement, mais La première chose qu'il faut, c'est de l'écoute. On a des familles qui sont en détresse, en préoccupation lourde, en souffrance parfois, puisqu'une situation de mal-être pour un enfant, ça a de l'écho dans la famille pour tout le monde. Donc la première des choses, c'est de recevoir la parole et la détresse et l'émotion de cette famille qui fait appel à nous, de façon à ce qu'elle puisse s'exprimer. Puisqu'elle a un regard partiel, qui est le regard que va lui montrer son enfant, et c'est évident, elle a besoin de plus d'informations, elle a besoin de savoir un petit peu comment ça va être géré, elle a besoin d'être rassurée. Donc on travaille ensemble et on fait un suivi qu'on dit une journalisation, c'est-à-dire qu'on rappelle régulièrement les familles pour savoir comment vont leurs enfants, comment eux gèrent à la maison. Et puis, quel est leur ressenti sur ce qui est mis en place. Ça leur permet aussi de verbaliser certaines choses et nous donner des éléments pour pouvoir travailler aussi avec les établissements. Parce qu'on travaille à la fois avec les familles et à la fois avec les établissements pour les accompagner dans la gestion de ces situations.
Merci beaucoup, Aymeric Metz, directeur académique des services de l'éducation nationale dans les Hauts-de-Seine. Merci beaucoup, Gwenaëlle Tarantola, je rappelle, responsable départementale non au harcèlement dans les Hauts-de-Seine. Merci à vous deux d'avoir accepté l'invitation d'Alpe 1 pour parler de la lutte contre le harcèlement scolaire.
Merci à vous.